a long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
La planète tourne dans sa tête et c'est une planète familiale avec les ailes de l'exil dans le dos. Dans sa tête à lui, il y a plein de dates, il y a plein de villages aussi qui n'ont pas la même religion ni la même façon de dire « je t'aime ». Mais dans la tête de Jad Hilal, c'est un seul et même monde, celui de la fiction, capable d'anéantir tous les checkpoints et tous les problèmes de langue. Né en 87 en France, d'une famille libano-palestinienne encore pleine de valises au bout des doigts, Jad Hilal s'est construit un village intime où l'on trouve des grandes et des petites choses qui feront son ensole majeur. Par exemple, les stoïciens, une thèse sur l'empathie, Des ailes au loin, son premier roman, La voix de Julie London, La carabine de papa, et puis des voix a cappella qui font comme ça.
Just your mouth. Just your love. Just your anointing oils. Just your name. Just your chambers. Just your love and my mother's sons and my own vineyard and my soul. Just your flock, just your companions, just your kids, just your cheek. Just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts, and my beloved, and my love, just your eyes. And my beloved, oh, couch, our house, our rafter.
Qu'est-ce que c'est beau ça sur RFI, ce trio médiéval. Bonjour Jad Hilal.
Bonjour Yasmine Joaquin.
Quelles sont ces voix qui viennent d'ouvrir votre ensole majeur?
Alors, ce sont les voix donc de cette musique qui a finalement été un petit peu à la source de ce texte que j'ai écrit. Et la raison pour laquelle c'est une musique qui me touche tout particulièrement.
Mais vous ne nous avez pas dit qui c'est encore.
Ah, hein. Alors, c'est le trio, alors Agnès Varda. J'ai plus le nom des trois musiciens.
Alors, Garth Knox, ouais. Agnès Westermann, mm-hmm. et non pas Agnès Varda.
Oui, pardon, Agnès Varda.
C'est un bel hommage, un lapsus hommage, on va dire. Et Sylvain Lemaître.
C'est ouais. ça. Et voilà la raison pour laquelle j'ai choisi cette musique-là. C'est que ça correspond au message du texte des voix féminines qui sont épurées de tout le reste. Le fait d'ôter de plus en plus pour arriver à garder ce qu'il y a de plus originel, en fait.
Question subsidiaire, est-ce que vous êtes autant dans cette pureté musicale, Jad Hilal, que dans la techno, par exemple?
Que dans la techno? Alors non, pas spécialement.
Eh oui, c'est bien ce que je craignais.
Je pense que ça correspond en termes de musique à ce que j'aime, mais même au-delà de ça, en termes de littérature. Je lis beaucoup de littérature américaine aussi. Et il y a un véritable art de, comment on appellerait ça,
du dépouillement.
De l'élagage. Écoute Naïma, moi je vis en Syrie, mais je suis né en Palestine, j'ai grandi là-bas. Tu crois que j'aurais pas préféré y faire ma vie, élever mes enfants, cuisiner pour mon mari, me promener dans les rues? J'ai tout fait pour y rester en Palestine. Mais tu sais Naïma, les politiques ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas que si on émigre, c'est parce qu'on a déjà essayé tout le reste, que c'est la dernière solution possible. Ils comprennent pas ou ils font semblant de ne pas le comprendre plutôt. C'est des faux culs les politiques Naïma, des faux culs.
Qui parle? Jad Hilal, alors, cet extrait en sol majeur.
Oui, ici.
De votre roman Des ailes au loin.
C'est la cousine d'un des personnages principaux, qui est Basila. Et ça correspond à un moment où Naïma n'a pas vu sa fille, Dounia, qui est partie vivre ailleurs, en Syrie, Donc on est en 1972, et évidemment que c'est une époque et ce sont des géographies dans lesquelles il n'est pas possible de faire le passage d'un pays à l'autre si facilement. Et donc ce personnage, Basila, qui est nettement moins complexé que Naïma, lui propose de prendre son passeport à elle en lui disant qu'elle lui ressemble. Et ce qui comble d'effroi Naïma, oui. Effectivement.
Oui. Alors donc c'est une de ces quatre femmes qui ont la parole dans ce roman. Elles sont nées à la fois de votre imaginaire, mais vous avez pris appui apparemment sur votre récit familial. Et vous avez mis en exergue de votre roman une phrase qui m'intrigue. Vous dites « Les personnages et leurs fictions sont réactifs ».
Ah oui, absolument. Alors il y a deux raisons à ça. C'est qu'au fond... Je trouve cette précaution qui est cinématographique et littéraire aussi de dire que c'est fictif ou de dire que c'est plus ou moins inspiré ou que c'est réel assez alarmante. J'ai l'impression que ça dit quelque chose d'un besoin véritable d'identifier nécessairement ce qui correspond à la réalité et ce qui est de l'ordre du fictif. Et cette phrase est une manière détournée justement de briser un petit peu cette précaution un peu austère et qui je pense en fait correspond absolument pas à ce qu'est la littérature ou le cinéma en fait. Pour moi c'est à la lisière justement de la vie et de la vérité et de la
c'est
fiction.
Poreux, la frontière est
oui,
poreuse.
Oui, absolument. Et c'est pas supposé se définir par rapport à l'un ou à l'autre.
Pécom. Photo de famille.
On va commencer par cette tranche de réel avec ces photos de famille, j'imagine, qui trônent dans le salon, dans votre salon à vous, Djadilal. Racontez-nous Fatima et Ahmed, vos grands-parents maternels. Où est-ce qu'ils sont nés et quel a été leur trajet, pour de vrai ?
Pour de vrai. Donc ma grand-mère et mon grand-père sont donc nés en Palestine, à Haïfa. Alors ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère donc, a vécu une enfance plutôt heureuse à l'ombre des oliviers et avec un père qui gagnait quand même plutôt bien sa vie, mais à la force de ses bras véritablement, puisqu'il travaillait à la mine avec des horaires pas possibles. Et donc la famille a grandi dans une espèce de confort qui a malheureusement contribué à la perte de ma grand-mère, puisque c'est de sa situation économique dont elle a été victime ensuite.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que mon grand-père... qui n'avait pas du tout vocation à épouser ma grand-mère, aux alentours de 20 ans, il était amoureux d'une femme qui était une artiste, qui avait 10 ans de plus que lui, et qui ne gagnait pas très bien sa vie.
Une artiste ?
Voilà, effectivement, ça fait partie de la définition. Et son père, à lui, s'est donc opposé à cette union-là. Et il l'a obligé, en guise de punition aussi, à épouser ma grand-mère, qui avait à cette époque-là 12 ans.
12 ans ?
Voilà. Et qui avait, elle, une belle situation économique. C'est à partir de là qu'ils se sont mariés et ils ont dû donc partir de la Palestine.
En quelle année ?
Alors, c'était en... Je suis sur les dates. C'était 48, je crois.
Ah bah, c'est vous qui voyez.
Je vous l'avais écrit, mais j'ai une très mauvaise mémoire, en fait, de ces choses-là.
Regardez donc dans vos SMS.
Voilà, ce que... 48, c'est ça. Je voudrais pas dire de bêtises, c'est quand même un sujet... Alors je reprends.
C'est intéressant que vous ne sachiez pas.
En fait, je sais à quel événement ça correspond,
oui.
Mais j'ai toujours été...
Parce qu'on est quand même là dans un contexte historique grave qui s'appelle la Nakba pour les Palestiniens, 48, la création de l'État hébreu. Est-ce que leur fuite de la Palestine est liée à la création de l'État hébreu ?
Oui, absolument. Alors, voilà, ils partent effectivement en 48. Et eux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des manifestations à cette époque-là, des Palestiniens, en opposition à la création de cet État. Et mon grand-père n'en faisait absolument pas partie. Mais l'État d'Israël et la Haganah...
La branche armée qui va donner Tsahal des années après.
Exactement, oui, a reçu certaines listes. Et mon grand-père a été dénoncé en tant que potentiel opposant.
Activiste.
Et donc, il a dû fuir avec ma grand-mère.
Il n'y a jamais eu, de désir de retour de leur part sur cette terre palestinienne ?
De la part de mon grand-père, je ne sais pas, parce que malheureusement je ne l'ai pas connu, il s'est suicidé avant que je naisse. Mais de la part de ma grand-mère, pas véritablement en fait. C'est-à-dire qu'elle a un regard quand même très 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 enfantin sur le monde. Au sens où elle n'est pas politisée. Enfin, c'est intéressant parce qu'à 12 ans, elle s'est mariée, elle est devenue très vite adulte. Et je pense que pour la construction psychologique, en fait, ça empêche de terminer son enfance comme il le faut et d'accéder au réel en tant qu'adulte. En fait. Donc elle est adulte, mais elle est restée très enfantine dans son approche du monde. Les oliviers, lui manque plus que la Palestine en tant que telle, si vous voulez. Parce que c'est ce qu'elle a connu en tant qu'enfant.
Alors c'est donc un couple marqué par l'exil, hein. Ils vont partir pour le Liban et s'installer à Baalbek. Et c'est un couple marqué aussi par ce que vous venez de nous dire, Jade, c'est le suicide de ce grand-père.
Oui, suicide. Alors, une des raisons pour laquelle c'est très important, c'est que je pense qu'un des risques face à la lecture de ce livre, c'est de placer les femmes comme espèce de héros de la liberté, l'étendard de la morale, et de faire des hommes, au contraire, des êtres un petit peu dogmatiques et puis dictatoriaux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Tout le monde est victime de l'histoire, les hommes y compris. Et cet homme, donc mon grand-père qui s'est suicidé, est aussi victime de son histoire. C'est-à-dire qu'il a aussi été bridé par rapport à cette vie qu'il aurait voulu avec une artiste, etc. Et cette union avec une gamine de 12 ans, envers qui il pouvait avoir aucune attirance sexuelle, aucune attirance amoureuse, et avec qui il a fait plusieurs enfants, et voilà. Donc il en a payé le prix à la fin. Alors, il s'est suicidé en partie à cause de ça, à cause de cette torture que représentait la vie pour lui, et en partie à cause du fait qu'il a été renvoyé par son patron, pour lequel il travaillait aux Nations Unies, et parce qu'il faisait partie d'un groupe de manifestants pour les droits palestiniens.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce roman qu'on va ouvrir maintenant, pour En sol majeur, Jadilal, en fait, il prend appui sur l'histoire de la famille maternelle, mais pas la famille paternelle.
Absolument, oui. Et c'est un choix. Le choix de la psychologie féminine que je connais, en fait. J'ai été élevé par ces femmes, et uniquement. J'ai grandi avec ma grand-mère jusqu'à mes 17 ans. Ce sont donc des psychologies que je connais plus que celles des hommes. J'ai jamais vécu avec mon père, j'ai jamais... Donc c'est en termes de légitime. Alors déjà, c'est difficile de se sentir légitime parce qu'on est fils de migrants. Et donc, c'était la moindre des choses, c'était de parler de ce que je connaissais le mieux, en fait.
B comme page d'écriture.
Une page d'écriture qui met en scène la parole de Naïma, Emma, Dara et Lila. Donc ça va de la grand-mère à l'arrière-petite-fille, hein, si je ne m'abuse, où l'on peut reconnaître les spectres, voire les silhouettes de toutes ces femmes de votre vie, Jadilal. Première question, qu'est-ce qui a déclenché en fait le désir, ce désir de récit?
Alors, quelque chose de totalement anecdotique. On était à un repas, comme on en fait tout le temps avec nos familles. Hein. Il y avait donc, voilà, ces quatre personnages, hein, donc ma grand-mère, ma mère, ma sœur et ma nièce.
Des personnages pour vous, quoi.
Voilà, qu'il était peut-être déjà, d'une certaine manière, oui. On parlait de tout et de rien, et la conversation s'est portée sur l'exil. Et à un moment, ma grand-mère a dit cette phrase « Moi, je suis partie, mais je suis restée. Voilà. » Et toutes les autres femmes présentes au repas ont hoché la tête. Et moi, évidemment, je n'ai pas compris du tout. Je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc ça m'a torturé véritablement. Et je me suis rendu compte, alors c'est assez terrible, mais bon, je pense que quand on est fils de migrantes ou de migrants, on a souvent ces réactions-là, que je ne savais rien de cette histoire familiale à 27 ans. Une histoire que ma mère m'a racontée quand j'étais petite, juste parce que j'avais discuté avec un inconnu dans la rue. Nejla, imagine la scène, ma mère m'a dit. Un jour... Un étranger entre dans un village. Il a soif. Il s'arrête devant une petite maison où une petite fille joue dans le jardin et où une femme passe le balai sur la terrasse. Il dit à la femme « Vous pourriez me donner de l'eau, s'il vous plaît ?» Elle accepte. L'homme boit et en profite pour se laver le visage avec le restant d'eau. Quelques heures plus tard, le mari rentre du travail. La fille dit « Maman a lavé un étranger !» Le mari est un peu fou, il s'emporte aussitôt, il bat sa femme et la quitte. L'histoire grossit, on craint que l'aventure touche à la réputation de la famille. Quelqu'un égorge finalement la femme et jette son corps dans un puits. La fille se retrouve sans famille, personne ne veut l'aider à cause du prétendu adultère. Elle erre pendant des mois, puis elle meurt. De faim. Silence. Pourquoi tu me racontes ça, maman? J'ai posé la même question à ta grand-mère. Elle m'a dit que c'était pour m'empêcher de parler aux étrangers. Efficace, hein?
Et oui, Jadilal, pour RFI et pour En sol majeur, merci pour cette parole de Naïma, extraite de votre roman « Des ailes au loin ». Alors voilà un thème éminemment oriental, j'ai envie de dire, celui de la rumeur.
Oui, absolument. Alors, il y a la rumeur et il y a également cette croyance que je trouve assez intéressante, à savoir cet aspect très poreux entre la réalité et ce qui touche à l'imaginaire, avec la certitude que ce qui n'est pas réel peut entrer véritablement dans le cadre de la réalité.
C'est-à-dire que la superstition est plus forte.
Absolument.
Que le réel lui-même.
Voilà, et plus éducative que le réel lui-même.
Alors en suivant ces quatre femmes sur quatre générations, avec cette phrase presque traumatique de votre grand-mère, « Je suis partie, mais en fait je suis restée », qu'est-ce que vous découvrez? Quelles réponses ont-elles apporté, ces quatre femmes, à la question de l'exil?
Une en particulier, une seule. En fait, quand on imagine l'exil, et quand moi j'imaginais l'exil, je pensais que c'était quelque chose de si terrible que ça renégociait tout sur le plan d'identité. Et c'est ce qui est d'ailleurs présent dans le discours politique très souvent, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de s'adapter quand ils vont dans un pays.
Et c'est pas ce qui a été vécu par ces quatre générations.
Oui, absolument pas. Malgré les violences, malgré les déplacements forcés, etc., une partie d'elle est restée telle qu'elle était. L'humour, les psychologies, la guerre et les hommes ne réduisent pas tout à néant, en quelque sorte.
Mais ce qui est intriguant, c'est que quand on ouvre votre roman, on a l'impression que vous allez finalement nous raconter encore des récits en lien avec cette tragédie palestinienne, la Nakba, et en fait, pas du tout, parce que vous racontez la chronique quotidienne des petits malheurs, et ce sont des petits malheurs au féminin, c'est le retard des règles, c'est des petites guerres féminines aussi entre elles, avec le mari, le père, le frère, chacun pesant un peu trop. Et en fait, j'ai l'impression que c'est cette guerre-là, celle du quotidien, qui vous intéresse prioritairement.
Absolument. Eh bien, en fait, l'histoire ne réduit pas tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un véritable choix, c'est non pas de considérer vraiment le contexte historique en tant que tel, et puis de le relier à des personnages, mais véritablement de voir en quoi ce contexte historique pénétrait ou non dans le cadre d'individus.
Alors quand même question, parce qu'il y a quelque chose qui filtre de tragique, même si c'est pas au premier plan. De quoi est-ce qu'on peut mourir dans ce coin du Moyen-Orient, Jadilal? Et la réponse familiale, elle est multiple. On peut mourir d'un suicide, d'un règlement de compte, ou plus bête encore, et là il faut nous raconter, l'histoire de Rachad, qui est une sœur d'Emma, et qui souhaite se marier avec un milicien palestinien. Qu'est-ce qui se passe pour elle?
Alors, Rachad est le personnage qui met le plus en acte son engagement envers les Palestiniens. Et donc, c'est un personnage qui veut se marier avec un milicien, ce qui n'est évidemment pas approuvé par la famille.
Et pourquoi?
Parce que c'est assez dangereux, et c'est ça, c'est intéressant, c'est un moment du texte aussi, où il faut distinguer ce qui est du domaine de l'indignation et ce qui est du domaine de l'engagement politique, de la mise en acte de cet engagement. Et notamment au Liban. Au Liban, il y a beaucoup de gens qui sont très révoltés partout, mais qui ne vont pas forcément le mettre en action. Et là, cette famille-là est là-dedans aussi. C'est-à-dire, tout le monde est pour la cause palestinienne, mais personne n'a eu l'élément déclencheur pour la mettre en acte. Sauf Rachad, qui donc finit par se marier avec ce Palestinien, et ce milicien, et pendant le mariage, il y a donc cette absurdité de l'histoire, à savoir que l'homme, pour célébrer, comme on fait là-bas, tire une balle au plafond, la balle lui revient en plein dans le cœur et il meurt. Le moment où la petite histoire confronte la grande. Et alors, je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est une histoire vraie aussi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, Rachad est devenue une martyre. Pas parce qu'elle souffrait, pas parce qu'elle avait une cause, mais parce qu'elle avait une raison de passer à l'acte. Toute la famille pensait comme elle, Rachad. On était tous contre l'occupation d'Israël en Palestine. Pas besoin de balles perdues. Mais personne, moi y compris, n'avait eu le drame qu'il fallait. On était tous des martyrs en puissance, sur les starting blocks. Rachad, elle, était le seul à avoir entendu le tir au début de la course. Quand son milicien l'a pris en plein dans le cœur, elle a reçu au même endroit. Sauf que le sien n'a pas libéré de l'hémoglobine, mais un je ne sais quoi de doré, lumineux, sacré et entêté. C'était fait. Elle allait prendre les armes.
Alors c'est vrai, Votre roman Des ailes au loin, si c'était une musique, ce serait cette musique là qu'on entend, Jadila, là.
Sans aucun doute.
C'est quoi cette musique?
Cette musique, donc, c'est Song for Peace d'Omer Avital et de son quartet.
J'ai eu peur que vous oubliez son nom.
Non, pas deux fois.
Problème de mémoire.
Oui, sur les dates et les noms, malheureusement. Omer Avital est quelqu'un d'assez fascinant. C'est quelqu'un de, donc, c'est un musicien qui est américano-israélien et qui est très engagé sur cette question de politique, qui est celle du conflit israélo-palestinien, et qui a un propos très très juste et que je pense on peut étendre au domaine artistique en général. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas en littérature. Il dit que l'art et la musique est justement ce qui permet de parler outre les frontières.
C'est ce que vous faites.
Absolument, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, oui, effectivement. Ouais.
Où l'on comprend à travers cet extrait que vous venez de nous lire de votre roman Des ailes au loin, que finalement ce qu'on appelle la martyrologie dans cette famille palestinienne installée au Liban, bah, elle ne dépend pas forcément d'une cause.
Mmh, oui, oui, absolument. Oui, oui.
Vous avez une phrase, vous dites c'est drôle, comme être révolté n'a parfois rien à voir avec la révolution.
Absolument. Et c'est quelque chose qui peut être élargi à la cause palestinienne, mais également à la rhétorique libanaise, à savoir qu'il y a ce plaisir à s'indigner. C'est-à-dire qu'au Liban, il y a beaucoup plus cette tentation de la parole, du discours indigné, etc., que la mise en pratique par voilà, des actions politiques, par des manifestations, par des blocus, par des choses comme ça.
On est dans la rhétorique.
Voilà, absolument.
D'abord. En même temps, même si ce roman n'est pas un récit du tout à charge contre le conflit du Moyen-Orient, on peut dire quand même que la géopolitique s'invite malgré tout à la table des noces, hein, on vient de s'en apercevoir avec ce passage tragique, et ça s'invite toujours. Dans quelles circonstances Emma, qui est la figure de votre mère, dans quelles circonstances elle quitte le Liban ?
Alors, à cette époque-là, elle est déjà bien installée dans la vie. C'est-à-dire qu'elle était à l'université de Beyrouth, et elle a eu une jeunesse engagée. C'était aussi le relan de mai 68.
Donc
c'était
intellectuel, on va
voilà,
dire.
Voilà, intellectuel de gauche, marxiste, communiste. Et la guerre a commencé et elle a donc dû partir, puisqu'elle avait déjà ses enfants.
Enfin, la date est très importante, vous ne la dites pas du tout, c'est en 82 ?
Oui, c'est ça. Alors, 82, c'est la guerre civile, en fait.
Bah, c'est Israël.
C'est Israël qui rentre dans le territoire. Il y a cette scène, notamment, où en fait, Emma est sur son balcon et elle refuse de partir du pays, malgré que les tanks de l'armée israélienne s'engagent dans la ville, en fait. Et donc, force est de constater qu'il faut partir. Et donc, finalement, elle aurait même, elle, voulu rester, mais elle est évacuée parce qu'elle travaille pour les Nations Unies. Et la politique est assez directe à cette époque-là. Tout employé doit être rapatrié au siège de l'organisation, qui est donc à Genève. Et elle se retrouve à Genève avec ses enfants, alors que son mari, lui, est à Bagdad.
Vous êtes un peu le, comment on appelle ça, le cartographe ? Presque, hein, mais pas du tout l'analyste, encore une fois, politique de ce conflit qu'il y a en toile de fond. Ce récit choral féminin en temps de guerre ne prend absolument pas parti pour ce conflit du Moyen-Orient. Est-ce que l'auteur que vous êtes, en fait, lui-même ne veut pas sortir du bois par rapport à cette question et s'exprimer là-dessus ?
Alors, en tant qu'auteur, non. En fait.
En tant que quoi alors vous voudriez
En
dire
tant qu'individu, oui, tout à fait. En tant que penseur, voilà, je suis le conflit israélo-palestinien, je m'engage, mais je ne veux pas que ce que j'écris soit au service de ça. Pour moi, ce sont deux choses qui sont très séparées. Et d'ailleurs, je le dis très honnêtement, ce livre n'est pas fait pour un lecteur qui cherche à comprendre des éléments précis et développés sur le conflit israélo-palestinien.
Vous avez 31 ans, hein, quelque chose comme ça. Vous vivez très très loin de cette réalité, même si vous faites de temps en temps des allers-retours entre la France et le Liban. Mais est-ce que ce conflit du Moyen-Orient vous fait souffrir ?
Oui, absolument. Oui, il me fait souffrir à double titre, en tant que tel, parce que j'ai l'impression que c'est une tragédie, mais au sens grec, hein, c'est-à-dire au sens véritablement d'une erreur, d'une faute, pas d'un destin qui écrase des individus, mais d'une faute qui a été faite à une époque et qui maintenant n'est plus... voilà, c'est irrémédiable, en fait. Ma seule réponse à ça, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre essayer de se construire en dehors, en fait. Comme pour la colonisation, c'est-à-dire, c'est Edward Said, je crois, qui dit que
l'essayiste on se libère de américano-palestinien.
Voilà, qu'on se libère de celui qui nous colonise à partir du moment où on existe en dehors de lui, pas en opposition.
Et c'est ce que vous faites, vous.
Voilà, c'est ce que je fais.
Que vous faites aussi en écrivant.
Absolument. Et ça, pour le coup, je le fais dans la littérature. Je suis parti, mais je suis resté. C'est l'idée que finalement, on peut tourner le dos à cette opposition perpétuelle et on peut exister en dehors. Voilà, les conflits ne tuent pas tout chez quelqu'un.
Alors vous le disiez, Jadila, effectivement, votre grand-mère vous a élevé pendant 17 ans. Waouh.
Oui, ça laisse
c'est traces. Quelque chose, ça. Hein,
oui, oui, absolument.
Et qu'est-ce qu'elle a ramené dans son couffin comme culture pour éduquer son petit-fils?
Ce que j'en garde, c'est des choses qui sont très diverses. La guerre l'a affectée à long terme. C'est quelqu'un d'assez paranoïaque, qui a toujours cette peur d'être surveillé. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance aussi, quand même, globalement. Mais à côté de ça, elle avait un amour inconditionnel envers moi. Elle me disait souvent que elle, tout ce qu'elle avait vécu, c'était pour que moi, je le vive pas. Ce qui, en fait, est pas forcément facile à gérer aussi. Hein. C'est-à-dire que ça charge les individus d'une nécessité métaphysique très forte.
Mmh. Ah. Donc, elle vous a nourri d'une histoire, elle vous a nourri d'une langue,
d'une
j'imagine.
D'une langue, oui, qui est palestinienne, effectivement.
D'une gastronomie, éventuellement.
Oui.
Oui,
oui.
Vous mangez quoi le matin?
Alors maintenant, je mange effectivement beaucoup d'huile d'olive et de za'atar. Donc, c'est devenu pathologique. Le principe de manger sucré au petit déjeuner, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et que je ne sais toujours pas être trop capable de faire aujourd'hui, quoi.
من معاني الحداق مكنوز الأفاق صحاب الحضرة لاقي بربيهم الرحيق Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit?
Je souhaitais lire ce texte de Mahmoud Darwish, qui est un texte qui est extrait d'une mémoire pour l'oubli et qui décrit cette année de 1982 à Beyrouth, hein, mais qui le décrit à la manière également d'individus, de ce que les individus ressentent et de quelle atmosphère il y a. Au prix de batteries anti-aériennes qui ont épuisé leurs munitions, de l'héroïsme d'une jeunesse qui a déjoué les attentes des experts militaires, déjoué la folie, combien de temps encore? Jusqu'à ce que se produise quelque chose qui n'arrivera pas. Rien n'a changé. Nous sommes toujours seuls. Entreront-ils dans Beyrouth? Ils n'entreront pas. Cela entraînerait des pertes inacceptables à leurs yeux. Mais ils grignotent le pourtour de la ville. Ils ont tenté une percée au passage du musée et ont échoué. Les jeunes ont un moral d'acier, de vrais démons. Ils ont perdu l'espoir d'être secourus, d'ébranler le monde arabe, de modifier l'équilibre stratégique. Alors ils se battent comme des fous. Sont-ils au courant des négociations? Bien sûr, mais ils n'en croient rien. Ils disent que ce n'est qu'une manœuvre et ils se battent. Ils savent que le silence des autres leur offre la meilleure des tribunes. Il n'y a guère que leur sang qui parle aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous lisez ce poème de Mahmoud Darwish et quand vous le dites?
Je sens ce que je voulais un petit peu défendre dans le cadre de mon texte, à savoir que finalement, les guerres, lorsqu'il y a guerre, certaines choses chez les individus sont toujours au-delà. Sont toujours au-dessus. Là, ce sont cette jeunesse béroutine qui n'est pas écrasée, en fait, qui, vraiment, de manière rationnelle, ne représente rien, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même des populations qui sont dépassées par des enjeux. Et c'est tout le drame du Moyen-Orient, c'est qu'en fait, tout ce qui est dans le Moyen-Orient se produit par l'extérieur du Moyen-Orient, en fait. Tout se joue là-dedans, c'est la scène des conflits internationaux.
Alors là, vous venez de nous offrir la version traduite en français de Mahmoud Darwish. Est-ce que vous lisez l'arabe, par ailleurs?
Non, je ne lis pas l'arabe. Je connais l'arabe palestinien, libanais. Et c'est intéressant parce que c'est un arabe qui se dit mais qui ne s'écrit pas. Ouais, il faut apprendre l'arabe littéraire.
On donc vous sentez pas anti, on va dire,
oui, absolument.
Linguistiquement?
Totalement. Et il y a un personnage dans le texte qui dit quelque chose d'assez intéressant, c'est Dara qui dit quand elle est au Liban, on lui demande qu'est-ce que c'est que la France, et quand elle est en France, on lui demande qu'est-ce que c'est le Liban. Et moi, je m'inscris totalement dans le cadre de cette identité un petit peu flottante, et notamment par le biais de la langue, hein, vraiment.
Ouais. Est-ce que ça vous dirait alors d'entendre en arabe la voix de Mahmoud Darwish?
Ah oui, avec grand plaisir, oui, tout
on
à fait.
Va.
من أنا لأقول لكم ما أقول لكم وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا. ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات، ولدت بلا زفة وبلا قابلة.
Alors, est-ce que vous vous sentez proche de cet arabe parlé par Mahmoud Darwish, Jadilal ?
Alors oui, effectivement, bon, je reconnais certaines sonorités, etc. Ce qui est intéressant, véritablement, c'est le rythme, je trouve, de cette parole-là, quand même très lente et très chuchotée. Et ça a quelque chose, et Mahmoud Darwish, la raison pour laquelle j'adore ça, c'est que même lorsqu'il n'écrit pas des poèmes, il écrit de manière poétique.
Ouais. Vous parlez de rythme, ça veut dire que vous ne comprenez pas absolument chaque mot.
Non, absolument. Là, c'est parce que c'est un arabe qui est quand même assez littéraire et qui est quand même assez proche de l'arabe écrit, en fait. Ouais. Et donc, c'est pas exactement l'arabe palestinien que je connais. Et c'est toujours ça. Enfin, chez Darwish, il y a un mot pour ça. Hein. Il nous transcende, voilà. Il nous transcende dans une espèce de rituel, de la parole, tout ça, c'est... Ouais.
Alors, on parle souvent de l'identité palestinienne, c'est une grande interrogation. Et on reçoit souvent en sol majeur des descendants de déportés qui, eux, font souvent le choix de préserver à la fois la mémoire de la Shoah et cette identité juive, tout ce qui tourne autour de la judéité. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, si on vous parle d'arabité, si on vous parle de Nakba, est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche de préservation ?
Non, pas du tout. Je suis moi-même en fait France. Enfin, je suis né en France. J'ai fait toute ma scolarité en France. Je sais que c'est quelque chose qui doit être préservé et je m'y engage pas dans le cadre littéraire, mais je veux évidemment que la Palestine, notamment, reste telle qu'elle est, voire même qu'elle retrouve ce qu'elle a été. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que sur le plan politique, je trouve ça toujours assez délicat de dire, par exemple, que on peut toujours se reconstruire ailleurs. Moi, je pense pas ça du tout, en fait.
Mais avoir ça, quelqu'un d'identique, c'est la problématique notamment de la génération de votre grand-mère, voilà, ou de votre mère. C'est pas votre problématique à vous.
Oui, mais c'est aussi une problématique au sens où je trouve que c'est assez facile de dire ça dans la mesure où, il faut donner les moyens aux gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne les moyens à un Palestinien de partir et de pouvoir se reconstruire, alors d'avoir un travail, d'avoir un métier, etc., pas de problème. Mais c'est pas le cas, en fait. Les Palestiniens sont totalement bridés par leur statut. Ils ont pas les mêmes accès. Donc évidemment qu'il y a une espèce de nostalgie, etc. Moi, personnellement, étant en même temps français, en même temps libanais, en même temps palestinien, le principe de l'identité nationale, c'est quelque chose qui m'échappe totalement, moi. Parce que j'ai grandi dans une région aussi où je passais la frontière tous les jours, entre la France et la Suisse aussi. Donc, c'est pas quelque chose contre lequel je m'oppose, hein. C'est-à-dire, je suis pas contre ça, mais je ne le comprends pas. Voilà. Je n'arrive pas, moi, à comprendre ce que ça veut dire être français au sens d'une frontière.
Mais parce que vous n'êtes pas dans une seule verticalité d'identité, en
fait. Voilà, absolument.
Alors peut-être que la réponse à ça, à cet intérêt pour la littérature avec un grand L, hein, vous êtes faites des études de lettres et de littérature anglophone. Hein, et d'ailleurs, vous avez vécu en Écosse, hein, aussi.
Oui, un an.
C'était bien, maman ?
Oui, totalement, totalement.
D'où ce choix peut-être de jeter votre dévolu, on va dire, sur Henry Miller.
Oui. Alors, pour l'Écosse, toute petite parenthèse, je trouve que c'est un pays qui est justement super parce que ça prouve quelque chose, c'est que on peut être en même temps extrêmement fier de son identité. Ouais, les drapeaux écossais, la grande muse, etc., les plats nationaux, l'opposition à l'Angleterre.
Le kilt. Vous l'avez porté?
Non, j'ai pas osé. Mais bon, peut-être pour un prochain voyage. Et en même temps, être très accueillant. Ce qui n'est pas forcément synonymique aujourd'hui. Et alors, Henry Miller, oui, un véritable maître à penser. Et également parce qu'il a eu une vie qui, je trouvais, est formidable. C'est quelqu'un qui a quand même été dirigeant dans une société aux États-Unis et puis qui ensuite est venu vivre sous les ponts à Paris. Et je trouve que dans l'écriture, il y a quelque chose de très vivant, de très fort, un peu comme John Fante, par exemple. Mm-hmm. Et parfois, c'est bien aussi.
Vous savez quoi ? Visuellement, je trouve que vous avez, avec votre chemise blanche ou verte comme ça, vos cheveux un peu en bataille, vous avez un petit côté BHL, visuellement,
mince.
Je dis. Mince,
je sais
alors.
Pas comment le
non,
prendre.
Mais c'est pour dire qu'on est extrêmement sérieux, ça ouais. M'étonne, hein, mais sur des choses finalement assez graves. Mais Peut-être que la réponse, elle est effectivement dans l'humour, qui n'est pas absent
oui.
de votre bibliothèque ou de votre, je ne sais pas, de votre discothèque ou en tout cas de votre filmographie. Il y a un film qui vous a marqué, c'est Le Cochon de Gaza. Et vous avez bien raison, c'est une comédie de Sylvain Estibal qu'il a réalisée en 2011 où le drame du Moyen-Orient est totalement détourné. Extrait.
Je m'appelle Jafar. Je suis pêcheur à Gaza et j'ai pêché un cochon dans la mer. Je suis sûr que vous l'aimerez parce que c'est un magnifique cochon.
Sexe ?
Hein ?
Mâle ou femelle ?
Ça, j'en sais rien.
On a besoin que de mâle. Le dernier qu'on avait a été tué par une de vos roquettes.
Ah, quel dommage. Si jamais mon cochon est un mâle, il vous intéresse ?
Possible.
Je reviens. D'accord ? Je reviens. C'est bien un mâle ! J'ai ce qu'il vous faut ! Mâle.
Mais ça va pas ? Vous êtes cinglé ?
Mâle. Oui, mâle. Alors, vous me l'achetez combien ?
Apporte-moi son sperme.
Comment ça ? Son sperme ?
Qu'est-ce que vous croyez ? Il n'est pas question que je laisse entrer un porc venant de Palestine dans la colonie.
Il n'est pas palestinien, non. Il vient du Vietnam.
Tout ce que je veux, c'est son sperme.
Je ne sais pas si je peux poser la question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous aimez ce drame de la Palestine raconté façon cochon de Gaza, Jalilal ?
Eh bien, parce que ça rejoint la question de l'humour, en fait. Parce que, en fait, on en dit beaucoup plus avec des sujets très très simples que avec des problématiques très théoriques. Mmh, en fait.
Tirées du quotidien, vous
voyez. Oui, absolument. Oui, tout à
fait. L'absurde ressort absolument.
Totalement. Et c'est le fait aussi de montrer que ces gens-là communiquent, en fait. C'est-à-dire qu'Israélien et un Palestinien...
Derrière un grillage, quand même.
Derrière un grillage. Mais le grillage n'est pas leur initiative, si vous voulez. Et c'est aussi la croyance un peu naïve, mais très ferme, que finalement, c'est rarement les gens qui décident des frontières. Ils sont souvent victimes de ce que des gouvernements décident eux-mêmes. Mmh. Et en fait, c'est infime, en fait, en termes de répartition sur la population. Et les gens existent en dehors de ça. Il y a une phrase de Sébastien Japrisot, que j'apprécie pas spécialement, mais qui a dit quelque chose de très vrai, je trouve. Il dit que la dérision en toute chose est l'ultime défi au malheur. Parce que je crois que l'humour a une force considérable, parce que parfois, c'est vraiment la dernière solution. Face à l'absurdité du monde, c'est le dernier recours. Du coup, ça en dit long sur une situation, en fait.
Il y a l'humour et puis sinon il y a le détachement en façon stoïcien. On n'a pas tellement le temps d'ouvrir ce gros dossier, mais si on n'est pas détaché façon Sénèque, on peut l'être façon Julie London. Si, c'est vrai. Il y a un détachement très jazz dans sa manière de swinguer. Pourquoi vous avez choisi Bye Bye Blackbird ?
C'est une chanson qui me touche beaucoup parce que c'est un hymne à la bizarrerie, aux gens qui sont un petit peu en marge. Et qui ont le droit de l'être, comme des gens qui vont aller vendre un porc à des Israéliens, si vous voulez.
Pack up all my care and woe. Here I go, singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird. Thank you.
blackbird.
J comme je me souviens.
Je me souviens de ces étés à Arsoun, dans un des villages qui est un village un peu perdu dans les montagnes de Beyrouth, qui est un tout petit village druze. Où quand j'étais petit, j'allais passer certains de mes étés. Et je me souviens de ces matins où je me réveillais au son des tirs de mon père et de mon oncle qui allaient chasser des oiseaux. C'était très tôt en général, c'était dans les 5h, 5h30 du matin. Et parfois, l'été, la nuit, on entendait que ces vieux moteurs qui résonnaient au loin et puis peut-être parfois un feu quand des enfants faisaient... cuire de la viande pour un barbecue, c'était des moments heureux.
On aurait pu rajouter quelques mots aussi entendus régulièrement dans votre enfance, Jadilal, après tout ce que j'ai fait.
Ah oui, le modèle éducatif féminin en tout cas. Oui, alors ça c'était l'arme absolue de ma mère, hein. C'était l'espèce de l'arme nucléaire véritablement. Ma mère, alors je pense que c'est le cas chez beaucoup de mamans arabes, elle n'utilisait pas nécessairement la violence. Et elle utilisait la culpabilité. Et qui consistait en fait à chaque fois que j'avais une mauvaise note, voilà, à me dire, non pas t'as eu une mauvaise note, ou alors tu vas voir, etc. C'était jamais vers l'avenir en fait. C'était toujours vers le passé. C'était après que j'ai quitté mon pays, après que j'ai dû fuir la guerre, après que je me suis retrouvé ici sans personne, etc. Et toi, tu me ramènes un 2 sur 20 en histoire géo. Du coup, moi, je me sentais pas seulement responsable du 2 sur 20, mais je me sentais responsable de l'exil, du mariage loupé et de tout. Voilà. Ce qui marchait radicalement
ça
bien.
Ça donne un auteur.
Oui, oui. Mmh. La culpabilité, peut-être que ça aide.
Parce que, on l'a pas dit, vous êtes né d'une mère palestinienne qui finalement aura vécu à Baalbek au Liban, mmh. Et d'un père libanais, un père druze, oui. Et une mère sunnite.
Oui.
Ça, c'est sportif, je pense.
Oui,
hein.
drôle de mélange. Et c'est pour ça qu'ils ont dû se marier à Chypre, d'ailleurs. Parce que des druzes ne peuvent pas épouser des femmes qui ne le sont pas. Et ils sont venus ensuite au Liban. Les druzes, pour si jamais c'est une branche de l'islam que j'ai découverte en partie grâce à ce texte. D'ailleurs.
Et comment vous avez vous-même résolu ce dilemme, on va dire, religieux ?
Alors moi, c'est quelque chose dans lequel je n'ai pas tellement baigné. Ma mère m'a toujours laissé très très libre quant au choix religieux. Donc j'aborde ça véritablement par une certaine curiosité intellectuelle. J'ai fait le ramadan cette année, etc.
Mais, par curiosité ?
Oui, vraiment, en tant qu'expérience, etc.
Vous faites d'autres choses comme ça, par curiosité ?
Oui, alors j'essaie de prier.
Ah, vraiment, vous êtes très curieux, donc.
Mais c'est davantage par spiritualité que par application des textes, si vous voulez.
Ouais. Vous prenez, mais je l'ai dit, vous êtes... un grand lecteur des stoïciens, donc ça travaille tout ça. Je sais que vous prenez régulièrement le train entre Lyon et Paris, où vous travaillez à votre thèse sur l'empathie ou sympathie.
Ou sympathie,
ouais. Ouais. C'est très étonnant comme intitulé.
Oui, vous savez, c'est quand même très à la mode, l'empathie. Ça a été dit dans le discours de Barack Obama, même aux États-Unis, que la civilisation américaine manquait d'empathie. Il y a des livres qui sortent régulièrement sur l'âge de l'empathie, la crise de l'empathie, etc. Et en fait, c'est très très mal défini. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir si ça consiste au fait à se mettre à la place de l'autre par l'imagination, c'est-à-dire vraiment en tant qu'exercice intellectuel, qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre ? Ou alors, est-ce que ça veut dire se mettre à sa place intellectuellement et partager ses émotions aussi ? Et c'est des questions que j'essaie de résoudre parce que c'est des questions qui rejoignent aussi beaucoup l'écriture, au sens où, vous savez, il y a toute une époque où on disait souvent les pays du Moyen-Orient doivent être plus démocratiques, on doit accompagner la Syrie dans son élan démocratique. Et ça, c'était souvent sous couvert d'empathie. C'est-à-dire qu'il fallait se mettre à la place de ces pays-là. Mais c'est très colonial, au fond. C'est-à-dire que imposer la démocratie, qui est un système politique qui est né en Grèce et qui ensuite est très occidental, à un pays qui n'en a pas la coutume, c'est imposer quelque chose qui n'a rien à voir. Donc on se met à la place de l'autre, mais en même temps, on n'est pas totalement à la place de l'autre, quoi. Et c'est des questions qui sont très, très épineuses.
Et écrire pas à la place des femmes, mais en leur nom. Puisque c'est ce que vous faites finalement dans votre roman. C'est un exercice d'équilibriste, ça, quand
absolument.
Même.
Absolument. Et cette question de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose qui m'a traversé pendant 3 ans. Et encore aujourd'hui...
Vous avez été une femme.
Oui, et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est bien légitime? Est-ce que je peux? Voilà. Après, j'ai quand même constaté qu'au-delà de la femme et de l'homme, c'est des psychologies, en fait, tout ça. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise avec certains types de psychologies, pas nécessairement féminines ou masculines, parce que je les connais. Donc, ça a été une vraie question, mais c'est, je pense que j'aurais pas pu faire cette expérience aussi bien si c'était pas des femmes que je connaissais et qui m'avaient élevé, en fait.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Jade Hilal, des ailes au loin, un premier roman très féminin qui paraît aux éditions Elizade. Et on va en rajouter une louche, si je puis dire, de féminité avec l'icône du monde arabe. J'ai nommé Férouz. Qui vous parle, à vous, à votre génération?
Ah oui, 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 absolument. Par transmission, beaucoup. Je crois que Férouz, c'est véritablement le message selon lequel on peut être libre et on peut être fou. Et on peut aimer malgré tout ce qui peut se passer autour de nous.
Avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Boris Vichit, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère demain avec Elisabeth Tcherchouk. À demain.